Et c'est une petite révolution dans le domaine de l'art pariétal qui est aujourd'hui la une de la science.
En 1994, on est allé dans la partie la plus orientale de Bornéo, dans le massif de Mangaliat. Et là, on a découvert une grotte ornée avec des peintures rupestres, qui sont les premières que j'ai jamais trouvées à Bornéo jusqu'à présent, avec surtout, en particulier, des empreintes de mains en négatif.
Allez, mains, dis-donc.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pour Fage et Chazine, l'aventure humaine s'achève par une belle découverte scientifique qui ouvre le champ d'investigation pour plusieurs générations d'archéologues.
Voilà un reportage de 1995 sur France 3 au sujet de ces grottes indonésiennes qui font donc aujourd'hui la une de la science, Axel. Quelle est donc la nouveauté exactement?
Eh bien Mathieu, pas de nouvelles découvertes, mais enfin des datations précises pour certaines de ces très nombreuses représentations. Des figures animales, des empreintes de mains, des représentations humaines aussi. Trois époques de peinture différentes se dessinent à Bornéo. Les plus jeunes ont 4000 ans, mais les plus vieilles, et c'est ça la véritable surprise, sont contemporaines, voire antérieures à Chauvet et ont 40 000 ans. Pour en parler, nous sommes avec vous, Luc-Henri Fage, bonjour.
Bonjour.
C'est Fage qu'on entendait dans le documentaire, hein, c'est
oui.
Ça, ouais. C'était vous en l'occurrence.
Ouais. Et vous êtes réalisateur, donc spéléologue et initiateur des missions spéléo-archéologiques à Bornéo dans les années 90, et donc co-découvreur de la plupart des cavités ornées avec Jean-Michel Chazine. Alors qu'est-ce que ça vous fait de revoir vos découvertes, revenir sur le devant de la scène scientifique 20 ans, 30 ans après?
Ah bah c'est très très émouvant parce que... Enfin, j'y étais cet été à Bornéo, hein, j'étais on me promenait de revoir quelques-unes des plus belles grottes, et c'est toujours émouvant d'être fixé sur un âge. On savait qu'elles avaient au moins 10 000 ans, ça on avait réussi à l'établir par une datation à l'uranium-thorium dans la même grotte, sur une autre draperie, mais la datation n'était pas très fiable, donc prudemment on a pris l'âge minimum qui était de 10 000 ans, qui permettait d'affirmer que c'était pas du tout... les populations austronésiennes qui avaient fait ces peintures. Les austronésiens, c'est les ancêtres directs des habitants d'Asie du Sud-Est, en gros, mais des populations plus anciennes, probablement reliées aux aborigènes d'Australie, et notamment l'art rupestre de Bornéo ressemble par certains points plus à l'Australie qu'à d'autres sites en Asie du Sud-Est.
Alors il y a une date quand même qui fait beaucoup de bruit et qui fait un peu de polémique, c'est celle qui vient détrôner Chauvet, c'est celle d'un bœuf dessiné il y aurait 40 000 ans. Vous aviez essayé de le dater, ce bœuf, ce bovidé?
Non, ce bovidé on n'a pas essayé de le dater, c'était une belle coulure qui se trouvait sur une main négative dans la même grotte, mais à 200 mètres. Mmh. Par contre, c'était des peintures extrêmement... Enfin, moi j'y ai passé des jours à relever les peintures, à les étudier, à les dessiner, à rêver devant, et c'est un endroit où, étrangement, on se sent très bien.
Pour l'imaginer un peu, est-ce qu'il est aussi beau que les ours ou les chevaux qu'on peut voir à Chauvet et qu'on
Alors,
a tous en tête?
Je vais tout de suite rassurer la conservatrice des études de la grotte Chauvet. Il n'y a pas photo. La grotte Chauvet, c'est de l'art extraordinaire, mais on enlève même 35 000 ans à l'heure, ouais. C'est magnifique. Voilà. Donc personne ne détrônera la grotte Chauvet. Chaque grotte a son intérêt. Ce qui est exceptionnel à Bornéo, c'est plutôt le travail sur la main négative. C'est-à-dire les mains négatives qui sont superposées de motifs, qui sont peut-être des tatouages ou des scarifications, mais des motifs qui ont l'air d'être des motifs claniques, qui vont être reliés entre elles par des courbes. Voilà, là on a un art rupestre qui est unique au monde, qui se trouve qu'à Bornéo. On ne va pas comparer Chauvet, où il y a très peu de mains négatives par exemple, mais où il y a des magnifiques animaux qui sont dessinés, on a l'impression qu'ils sont dans la pièce. Quoi.
Enfin là c'est la datation quand même qui est Alors, en jeu là aujourd'hui.
Non, mais ce qui est intéressant,
c'est pas rien. Là.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que à la même période, en Asie du Sud-Est, parce que Sulawesi, on n'est pas loin non plus, en Europe, à la grotte Chauvet, et peut-être un peu avant, ouais. Le Néandertal, en Espagne, l'homme s'est mis à faire de la peinture dans les parois des grottes.
Mais non, on dit pas la même période, on dit avant Chauvet, même avant Chauvet, donc c'est pas la même chose.
Qu'est-ce que c'est, enfin, 5000 ans, cette période-là, c'est on, rien.
on l'a eu au téléphone hein, ce matin, la directrice de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet, elle remet en cause la méthode pour ce type d'échantillon utilisé. Est-ce que je me permets de vous demander comment on fait vraiment pour dater précisément cet ours à 40 000 ans aujourd'hui?
Le bovidé, hein, c'est un bovidé.
C'est ce bovidé, oui, pardon.
L'ours, c'est à Chauvet. L'ours, c'est à Chauvet. Il est magnifique d'ailleurs, l'uranium-thorium est contenu en toute petite quantité dans la roche. Le géologue pourra nous confirmer, je pense qu'il connaît ça par cœur. Parce qu'il est solvable, donc il va se balader dans la goutte d'eau qui se descend dans les fissures du calcaire.
Oui.
Elle-même, elle emporte avec son acidité un peu de carbonate de calcium. Ce carbonate de calcium, quand il arrive dans la grotte, il revient à l'état solide et il a emprisonné dans ses cristaux de l'uranium. 238, lequel avec le temps va se transformer par une série d'étapes en thorium. On mesure quand on prend un échantillon, on mesure le nombre d'atomes d'uranium, le nombre d'atomes de thorium, et on arrive facilement à faire un calcul qui permet de connaître l'âge.
Alors, Sophie Béchon, vous aviez Karl Fritz, hein, justement, oui, hier au téléphone pour le 13h.
Effectivement, l'histoire de datation. Qu'est-ce qu'ont voulu nous dire ces hommes, quand même, en peignant ces motifs complexes? Parce que là, ce n'est pas du symbolique, ce n'est pas des hashtags comme on a pu le voir à Gibraltar.
Voilà, non, ce n'est pas des croisillons, ce sont des belles représentations.
Qu'est-ce que veulent dire les hommes qui peignent ces parois?
Alors malheureusement, j'étais pas dans leur tête. Je le regrette parce que franchement, j'aurais bien aimé. Ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est en faisant des travaux d'ethnographie sur les dernières personnes qui ont peint dans les grottes au monde. Il y a 50 ans, il y a des populations au cœur de la Papouasie qui faisaient encore des mains négatives. On a eu des témoignages de gens qui ont. C'est une Australienne qui vivait en Australie qui m'a raconté ça. Ils ont eu des témoignages de gens qui ont assisté à des cérémonies d'initiation. Et donc, c'est une grande falaise, il y a plein de grottes dans la paroi. Et puis, on mettait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ils restaient là plusieurs jours, ils avaient des visions. Ils vivaient une expérience de privation sensorielle et ils laissaient leur main négative sur la paroi. À Chauvet, je pense que c'est plus complexe que ça. Il y a peut-être des rites qui sont très compliqués à deviner. Et à Bornéo... On voit, par exemple, les peintures les plus récentes, celles qui ont 18 000 ans, les anthropomorphes, on voit des chamans danser, on voit des danses, on voit des hommes qui brandissent des boomerangs. Ça, j'avais repéré un boomerang. Le boomerang à Bornéo, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est australien.
On voit aussi des mains avec des ongles, ça veut dire beaucoup, ça.
Alors, moi, j'ai repéré qu'il y avait des mains sur lesquelles on voyait le prolongement de l'ongle, qui, pour moi, veut dire que... Enfin, la personne qui a fait ça... Elle passe pas son temps à fouiller la terre, à écorcer des... Voilà, elle a peut-être un statut privilégié au sein du groupe qui fait que ses ongles vont pouvoir être visibles sur l'empreinte.
Patrick de Wever, vous en tant que géologue, justement ces roches peintes ou dessinées si anciennes, ça vous touche aussi? Enfin si anciennes, tout est relatif hein, d'ailleurs dans la géologie, mais...
Oui, mais ça donne une notion de temps, effectivement, qui n'est certes pas le temps de la Terre, mais enfin, quand même, c'est un temps de l'humanité qui n'est pas notre temps du quotidien.
C'est ça. Ouais.
Et je pense que rien que ça, c'est une leçon qu'on doit conserver en tête, parce que quand on parle d'écologie, généralement, on pense en dizaines d'années. Ouais. Et là, on voit que même pour l'humanité, il ne faut pas réfléchir en dizaines d'années. C'est une erreur si on réfléchit que en dizaines d'années.
Ce qui est d'ailleurs, aujourd'hui, le gros challenge à Bornéo, c'est la conservation de ces peintures. Elles ont survécu 10, 20, 30, 40 000 ans pour les plus anciennes. Plus de 40 000 ans, parce que la peinture est entre 50 et 40 000 ans. Et aujourd'hui, il y a des compagnies de ciment qui avaient envie de débarquer pour aller grignoter ces montagnes pour faire du ciment. Mmh. On a réussi, Bini Setiawan, notre troisième partenaire indonésien, a réussi à faire inclure ces montagnes calcaires dans une extension d'un parc national, mais c'est que pour 20 ans. Et ils sont en train de faire le forcing, et je pense que cette nouvelle datation va aider pour faire en sorte que ce soit classé au patrimoine mondial de l'humanité.
Voilà. Ce sont des trésors de l'humanité.
C'est un trésor qui appartient à l'humanité. Ouais. Il n'y a aucune raison qu'on laisse les Indonésiens se débrouiller avec ça. Il faut les aider.
Merci. Et là, on est dans le patrimoine géologique.
Merci beaucoup, Luc-Henri Fache, pour ces précisions. Et puis, Axel, on se retrouve lundi pour une nouvelle Une de la Science.
Lundi.